Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 6 février 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine, ça va bien?
Ça va très bien. Hey, aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, Jacques Bienvenue, journaliste automobile émérite qu'on connaît depuis des décennies, pilote exceptionnel qui a challengé Jacques Duval très souvent et qui l'a battu parfois. Un gars vraiment sympathique qui voit sa chronique dans le journal papier retirée après 41 ans consécutifs sans avoir manqué une chronique. Alors, on va discuter de tout ça avec lui, puis on va revenir sur ses faits marquants de
sa carrière et de ses bons souvenirs.
Exactement. Puis là, bon, on se lance tout de suite dans les actualités parce qu'il y a eu plusieurs nouveautés qui sont arrivées sur le marché cette semaine, commencer par deux véhicules de marque Nissan qui ont été dévoilés et qui se faisaient vivement attendre.
Oui, ben, le premier, c'est le Nissan Frontier. Donc, la camionnette intermédiaire chez Nissan. Il y a eu un peu de mélange, je pense, dans l'information quant à la fin de la commercialisation de la précédente génération. C'est-à-dire qu'au Canada, on avait cessé, on avait rempli les cours avec des, entre guillemets, des vieux modèles. Et aux États-Unis, ben, on continuait de l'offrir, mais avec un nouveau moteur. Donc, il y avait peut-être un peu de confusion de ce côté-là.
En fait,
mais
pour 2022, passé, oui. Ce qui s'est passé, si tu me permets, c'est que la Frontier 2019 était le même qu'un 2005. Là. Il n'y a rien qui changeait mécaniquement. C'était la même chose. 4 litres automatique 5 vitesses disponible avec la boîte manuelle. Mais aux États-Unis, pour 2020, on arrivait avec un nouveau moteur 3.8 litres, boîte automatique à 9 rapports qu'on mettait dans ce même camion-là.
Toujours dans le vieux camion, là, c'est et ça. Pas au Canada.
Ben, c'est-à-dire qu'en raison de la pandémie, au moment où la pandémie est arrivée, il y avait déjà encore assez d'inventaire de 2019. Alors, on a décidé volontairement de ne pas amener le modèle 2020 sur le tard. De toute façon, c'était trop tard. On ne pouvait pas vendre de véhicules et on a décidé de se concentrer tout de suite sur le modèle 2022, sachant qu'il allait arriver là, ne sachant toutefois pas que son arrivée serait retardée.
Ben oui, parce que tout est retardé.
Les plans, c'était de le lancer pour 2021 et là, ça arrive en 2022. Donc, on s'est fait prendre de court et pendant à peu près un an, il n'y a pas eu de camionnette Frontier chez Nissan. Alors, voilà.
Et ben, tu parlais du moteur V6 3.8 litres qui s'est retrouvé brièvement sous le capot de l'ancienne génération. Ben, c'est ce moteur-là, sans surprise, qu'on retrouve pour le Frontier 2022.
Nouvelle mécanique, injection
boîte automatique
directe.
À 9 remparts, capacité de remorquage 6490 livres. Franchement, il a une belle gueule en plus. Ça fait très Toyota Tacoma hein, comme approche, donc un pick-up japonais un peu robuste.
Et mais, pour la première fois, c'est un camion développé pour le marché américain.
Et ça se voit. Tu sais.
Je veux dire, parce que le Frontier d'ancienne génération a été commercialisé ailleurs dans le monde sous le nom de Nissan Navara. Navara qui avait été renouvelé pour d'autres marchés.
Mais pas ici.
Mais qui s'adaptait plus ou moins bien aux besoins des acheteurs nord-américains. Et on voyait quel était le succès du Tacoma. On a voulu s'enligner directement là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a amené un Nissan Frontier pas plus gros parce qu'on aimait le format de l'ancienne génération, mais bien adapté aux besoins des acheteurs nord-américains. Il n'y a plus, malheureusement, de version moteur 4 cylindres, 2 roues motrices. On conserve des 2 roues motrices pour le marché américain uniquement.
Mais de ce côté-ci, ça va être du 4x4.
4x4 seulement, automatique, 9 vitesses seulement, King Cab ou Crew Cab avec 2 longueurs de caisse, 3 niveaux de finition, SSV et Pro Catix. On n'a pas une gamme super étoffée. Et moi, j'ai posé la question aussi lors de la présentation en Zoom.
Toujours oui, virtuel, hein, virtuel, évidemment.
On avait présenté il y a quelques années un moteur Cummins 4 cylindres, donc diesel, qui devait être présenté avec la camionnette Frontier, ce qui n'a jamais eu lieu, mais il y avait eu beaucoup d'intérêt pour ce camion-là. Et puisque GM propose un diesel dans sa camionnette, moi, j'ai posé la question, est-ce que le projet d'amener un moteur diesel dans le Frontier, c'est mort? Et la réponse protocolaire qu'on m'a donnée, c'est on parle pas des futurs produits, mais on m'a quand même confirmé que le projet n'avait pas été mis aux poubelles.
Donc, okay. Donc on va suivre ça de près.
Il y a peut-être une lueur d'espoir à l'effet qu'éventuellement un moteur diesel pourrait être offert là-dedans, mais si tu veux, mon ami, les chances sont minces, sauf qu'on n'a pas mis ça de côté complètement.
OK, bon, c'est intéressant. Autre véhicule qu'on a renouvelé chez Nissan, c'est le Pathfinder.
Ça fait
un autre
du bien,
véhicule
là.
Qui en avait énormément besoin. Et esthétiquement, c'est un gros rogue, là. C'est assez...
Mais je le trouve vraiment réussi. Esthétiquement, les proportions sont très belles.
Oui, c'est rien de très bouleversant ni de très choquant. Sur la mécanique, on est assez conservateur. Donc, V6, 3,5 litres. La bonne nouvelle et la grande nouvelle, c'est qu'on abandonne la CVT. Donc, il n'y aura plus de boîte à variation continue dans un véhicule de ce format-là.
Réjouissons-nous pas trop vite. On ne sait pas quel est le rendement de la 9 vitesses.
Oui, c'est ça. Donc, la CVT est remplacée par une 9 vitesses. Donc, à suivre comment ça va se débrouiller, mais au moins...
Parce qu'on espère que ce n'est pas la 9 vitesses qu'on avait greffée dans le Cherokee en 2014. C'est une boîte que j'ai jamais aimée, qu'on a utilisée chez Land Rover, qu'on utilise toujours dans l'actuel Acura MDX, qui est une boîte qui fait un travail très ordinaire.
Donc, on verra qu'est-ce que ça dit dans le Pathfinder. Et sinon, on peut avoir le siège capitaine à la deuxième rangée, ce qui n'était pas le cas. Donc, on peut aménager là, l'intérieur. Là,
on s'est adapté au goût du jour, il était temps.
Le seul petit hic, c'est que en ce qui a trait à l'hybride ou l'hybride rechargeable, c'est silence radio. Il n'y a rien à cet effet-là. Pour un modèle de nouvelle génération, c'est peut-être un peu décevant. Sans nécessairement arriver avec là,
mais remarque
tout de suite,
que Nissan
on aurait pu juste nous dire que ça allait s'en venir, mais non, pas un mot là-dessus. Je sais qu'il y a l'Aria qui s'en vient, qui lui va être 100% électrique, mais ça reste différent.
Ça, c'est un nom à coup, c'est un nom qui n'a pas de bon sens, Aria.
Ouais, au Québec, ça sonne
vraiment bizarre. Mais remarque ce que Nissan fait pour tous ces nouveaux modèles. Sentra, Rogue, on a une configuration mécanique.
On cible vraiment
la clientèle de masse et on s'en va pas dans des marchés un peu plus nichés comme Toyota va le faire avec trois options mécaniques pour le RAV4, Mazda,
même chose. L'offre est simplifiée,
c'est la clientèle de masse, c'est la grosse valeur et des produits qui vont se vendre assez facilement.
Oui.
Ils resteront pas collés dans les cours.
Quand on a juste une mécanique, c'est plus facile là, de satisfaire la clientèle quand on est un concessionnaire, on n'a pas besoin d'en avoir 50.
Que cette mécanique-là soit fiable.
Oui, parce que quand on l'applique à toute la gamme, voilà. Je sais pas si on peut appeler ça une nouveauté, on va dire ça comme ça. F-150 Raptor 2021.
Ouais.
On l'a dévoilé, mais on n'a eu pratiquement aucun détail technique. On nous a parlé du retour, oui, évidemment, du V6 3,5 litres EcoBoost, sans toutefois donner ses données techniques, ses données de performance. Il y avait de très grandes rumeurs à l'effet qu'on allait planter le moteur de le moteur V8, le moteur de la Shelby GT500. On va continuer d'attendre parce que ça ne s'est pas fait.
On ne l'a pas confirmé, mais disons que c'est comme si on l'avait fait parce que on a fait la présentation du camion. Évidemment, on nous a parlé qu'on a retravaillé les suspensions pour un meilleur débattement, pour plus de confort. On a retravaillé le moteur EcoBoost pour qu'il soit plus performant, plus économique. On dit que le véhicule pourra faire 500 000
plus économique, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'était un des critères là, des acheteurs de ce type de véhicule.
Oui, mais moi, je peux te dire que je sors d'un Ram TRX et si je peux combiner le plaisir que j'ai avec un Ram TRX avec un rendement énergétique qui est
nul,
un temps soit peu raisonnable, c'est pas pire. Mais on n'a pas parlé, en fait, on a mis beaucoup d'accent sur les technologies à bord, sur les gadgets, sur les modes de conduite, sur les surpiqués, les couleurs.
Ce qu'on voulait savoir, c'était, est-ce qu'on va avoir une mécanique capable de rivaliser...
Tout le monde parle du Ram TRX en ce moment. Je l'ai fait pas mal dans les dernières semaines, d'ailleurs. Évidemment, les rumeurs considérant le Raptor R à moteur V8 emprunté à la Shelby GT500.
On attend.
En fin de présentation, Ford a mentionné « Stay tuned pour une nouvelle par rapport au Raptor de plus haute performance. »
On reste tuned.
Mais ça s'en vient. C'est clair que ça s'en vient. C'est pas vrai que Ford va se laisser damer le pion par Ram. Ça, c'est hors de question. Et tu le sais, c'est une guerre de gros chest
Oui, oui, c'est très américain comme combat.
Et là, la question, c'est, mais où est Chevrolet là-dedans?
Ah, ben, ils sont pas là du tout. Ils sont
ou
pas
GMC,
là du tout.
Enfin, bref.
Autre nouvelle encore, deux autres dévoilements. Cadillac qui a présenté les CT4 V Blackwing et CT5 V Blackwing.
C'est violent, ça.
C'est
ça,
très,
c'est
très, très violent. En fait, c'est des on demeure dans l'esprit des anciennes ATS-V et CTS-V. Donc, dans le cas de la CT4, ben, c'est un V6 3.6 biturbo. On est à 472 chevaux dans une voiture, dans un format là, relativement compact. C'est assez impressionnant quand on s'imagine ça. CT5, bon, ben là, on a droit au fameux V8 de 6.2 litres, suralimenté, bien sûr. On est à, écoute bien, 668 chevaux. C'est énorme.
Avec une boîte manuelle.
Ben voilà, c'est ce qui est génial parce que Cadillac a à cœur hein, les puristes et les amateurs de conduite. Donc oui, il y a une automatique à 10 rapports, mais une boîte manuelle à 6 rapports, autant pour la CT4V Blackwing que pour la CT5. Donc ça, c'est franchement génial. Roue motrice arrière, un look à tout casser. Franchement, c'est rafraîchissant de voir ça arriver.
C'est une très, très belle voiture, la CT5, pour moi, et je pense que pour celui qui souhaite aller chercher une berline américaine hautement sportive dans une formule traditionnelle, c'est probablement le dernier moment où on pourra le faire.
Oui, parce
alors,
que...
Alors, moi, j'ai le feeling que les Blackwing, elles vont être populaires. Il va y avoir un engouement autour de cette voiture-là. Pas certain que tout le monde va pencher pour la manuelle, là, mais parce que manuelle, il faut que tu sois un vrai puriste pour aller chercher. Tu sais, 668 chevaux puis une manuelle roue motrice arrière, c'est quelque chose, là. Mais,
D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui prenait la manuelle avec la CTS-V, par exemple. Là.
Non, mais si tu as une manuelle CTS-V aujourd'hui,
Station,
elle vaut plus cher ou coupé, c'est quelque chose. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir quel impact aura cette voiture-là sur le marché, d'autant plus qu'on les vend à des prix que je qualifierais de raisonnables. Tu sais?
Alors, oui, c'est rien. C'est différent de ce que les Allemands nous ont habitués, disons
oui,
ça comme ça.
Un peu.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Maintenant, Germain, tu veux nous parler du Kia Sorento. Je souligne que je vais le présenter demain matin, donc à dimanche matin, à Salut Bonjour. C'est le véhicule que j'aurai en présentation, que je conduis en ce moment. On a changé sa vocation, on l'a réinventé complètement.
Oui, effectivement. Donc, 2021, nouvelle génération. J'ai eu la chance de le conduire pendant l'hiver. Première déception, ben, on l'avait souligné au dévoilement du véhicule, c'est-à-dire que ben on a abandonné la motorisation V6. Pour le Sorento. Donc, c'est soit un 4 cylindres atmosphérique 2,5 litres ou la même cylindrée, mais avec le turbo pour les versions un peu plus haut de gamme. Mais l'élimination du V6, ben, ça occasionne quoi? Ça diminue finalement la capacité de remorquage du véhicule. Donc, c'est un de ses atouts hein, face à ses concurrents. Le Sorento, sa capacité de remorquage, on l'appréciait parce que ben, justement, tu pouvais tirer jusqu'à 5000 livres, ce qui était intéressant. Et là, ben, on arrive avec quelque chose de peut-être qui ressemble un peu plus là, à la concurrence, c'est-à-dire 3500 livres. Donc, c'est un peu dommage. Chez Kia, ben, ce qu'on nous a dit, c'est que ben, si on veut remorquer, on a juste à acheter un Telluride et au moment où on commercialisait l'ancienne génération du Sorento, ben, le Telluride n'était pas là. Bon, sur la fin, oui, mais voilà. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on a une petite remorque à tirer qu'on a nécessairement les poches pleines. Donc,
l'avantage de l'ancien Sorento, c'est de pouvoir, sous la barre des 40 000, avoir un véhicule capable de retirer 5 000 livres et transporter une famille d'au moins 6 personnes.
Tiens, un Telluride, c'est très bien, là, mais c'est 50 000 $. Ouais. Donc, même la version la plus chère, la plus équipée d'un Sorento, c'est ça, 49 et des poussières. Donc, on ne s'adresse pas du tout à la même clientèle.
Sauf que le Sorento, jusqu'ici, jouait sur deux terrains en même temps parce que le Telluride n'était pas là.
Oui. Donc là, il est peut-être un peu mieux positionné, son champ est peut-être un peu mieux défini, mais toujours est-il que c'est un gros bémol pour moi de ce côté-là. Pour le reste, évidemment, la présentation intérieure est intéressante.
Ça, c'est réussi. Pour vrai, l'aménagement intérieur, rien à dire.
L'ergonomie est là, le système d'infodivertissement avec l'écran tactile.
Le confort des sièges, vraiment, là, on a là-dessus, c'est chapeau.
Oui.
J'oserais dire qu'on est en avant de tout le monde dans ce segment-là. Tu prends place à bord là-dedans puis tu te dis, bon, voilà des gens qui ont fait leur devoir. C'est parfaitement étudié, ça.
Oui, on ne cherche rien. Tout est à la portée de la main. Donc, pour ça...
Il y a de la place.
Oui, en plus. Donc, tout ça, franchement, est très, très bien. De ton côté, une petite BMW qu'on pourrait croire accessible, mais qui ne l'est pas nécessairement.
Aucun bon sens. BMW 228i dans sa version X-Drive. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette auto-là. Je ne m'en cache pas, j'aime beaucoup le plaisir de conduire des voitures BMW. La série 2, coupé ou cabriolet, ce sont des voitures que j'aime particulièrement parce que, pour moi, c'est encore des BMW de puristes, des voitures avec lesquelles on peut avoir beaucoup de plaisir au volant. Et je m'attendais à ce qu'on retrouve ça dans la nouvelle série 2 Grand Coupé, qui est une base de traction, je sais bien, parce que c'est une voiture qui...
Donc, très différente de la série 2 coupée au cabriolet qu'on connaît.
Oui, qui est propulsée, qui est un modèle d'ancienne génération. Là, on utilise la technologie des Mini Cooper.
Oui, donc même si c'est une série 2, fondamentalement, c'est très différent de celle qu'on pourrait connaître. Là.
Voilà. Alors, autrement dit, on fait appel aux mêmes éléments techniques qu'on va retrouver, par exemple, dans un BMW X1, X2, mais dans une formule voiture. La voiture a une ligne qui est quand même intéressante. Je pense que là-dessus, c'est réussi. Prix d'entrée à 39 000 $ pour une version à roue motrice avant, mm-hmm. 43 pour une version à rouage intégral. Et là, la version qu'on m'a prêtée, tiens-toi bien, 56 675 $ avant taxe parce qu'on y a ajouté beaucoup d'options, mais je suis toujours avec un 4 cylindres de 228 chevaux.
Oui, dans une voiture toute petite, là.
Et à 52 000 ou à peu près, tu peux avoir une M235i X-Drive de 301 chevaux, même mécanique qu'on va retrouver dans une Mini GP ou dans un Countryman
John Cooper Works.
Donc, véritablement une mécanique intéressante.
Il n'y a pas de comparable à faire.
Mais c'est parce que la voiture que j'ai là, bien qu'elle soit équipée de façon assez intéressante, faut pour ça qu'elle livre la marchandise. Et j'ai été amèrement déçu de son comportement. Pas nécessairement confortable. Les sièges quelconques. Il y a un gros bruit de vent qui provenait du toit ouvrant qui semblait mal ajusté. En vrai, tu roules puis tu as l'impression que les vitres sont un petit peu ouvertes. Là.
Même si c'est fermé.
Ce qui n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, c'est inacceptable.
Ouais.
J'ai vraiment été déçu de comment la voiture se comporte. Je ne l'ai pas trouvé très stable. Oui, elle est chaussée de pneus d'hiver 18 pouces au lieu d'avoir ses 19 pouces d'origine parce qu'elle a l'ensemble M. Mais il en demeure pas moins qu'une BMW, normalement, tu contrôles ça au doigt et à l'œil, avec une direction très précise. Là, la voiture, je trouve qu'elle vacille un petit peu. Et tu me vends ça le même prix qu'une série 3. Attends un peu, là. On n'est pas là, mais pas du tout, là. Je prends une série 3 1000 fois avant ça. Coupe dans l'équipement, si tu veux, mais je m'en vais dans une série 3 sans hésiter.
Et on a une voiture plus complète, là.
Et avec un petit peu plus d'espace, parce qu'on est quand même à l'étroit dans une série 2 comme celle-là. Et je préfère une A3 et je préfère une CLA que cette voiture-là ou une berline de classe A. Il faut toujours être raisonnable dans les options dans ces voitures-là parce que les Allemands sont bons pour nous amener à des niveaux qui n'ont pas de bon sens, puis c'est le cas avec la série 2. Mais j'ai été vraiment déçu. Et en fait, j'ai hâte d'en conduire une autre pour voir si cette auto-là, ce n'est pas... une erreur de parcours ou est-ce qu'elles sont toutes comme ça? Parce que, franchement, bien que la présentation soit intéressante, c'est une auto qui m'a déçu sur le plan du comportement. Puis le prix, écoute, ça n'a aucun sens. J'ai fait le calcul. Si tu finances la voiture sur 6 ans, tu ajoutes les taxes puis le taux de financement, tout ça, elle te coûte un peu plus de 75 000 $ au bout de 6 ans.
Donc, on lui prédit pas un grand succès ici.
Ben d'ailleurs, est-ce que tu en vois sur la route?
Absolument pas.
Voilà.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, on a un invité de marque cette semaine que les gens connaissent du milieu automobile depuis très, très, très longtemps et qui peut se vanter d'avoir eu la chronique à la longévité la plus exceptionnelle dans probablement tous les médias canadiens. On est avec Jacques Bienvenue. Salut, Jacques.
Bonjour, Jacques.
Hey, bonjour les gars. Ouais, salut.
Bon, pas trop. Ça va bien côté pandémie? Tu t'amuses bien quand même?
Alors, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai... Je suis pas un type qui est difficile à vivre, je pense pas. Mais moi, si le gouvernement ou les autorités disent c'est telle ou telle chose, je me plie à ça parce que j'ai pas les moyens de m'obstiner avec eux autres. Et j'ai pas le goût non plus. J'ai pas le goût parce que je trouve que ma qualité de vie est plus importante que m'obstiner avec des gens ou avec les autorités.
Fait que s'il faut rester à la maison, on reste à la maison.
Justement.
Bon, ce qui doit être difficile pour un amateur de VR comme toi qui prend la route souvent pour aller en camping.
Ouais. Généralement surtout le côté VR qui est un côté qui me passionne beaucoup. Ouais.
Bon, évidemment, on apprenait, Jacques, que la pandémie, la COVID-19, a eu un effet néfaste sur ta chronique, malheureusement, qui a été retirée du Journal de Montréal. On a appris ça cette semaine, après 41 ans sans interruption. Je pense pas qu'il y ait un journaliste automobile canadien qui puisse se vanter.
Même à l'échelle nord-américaine, c'est exceptionnel. Là.
Ah, c'est exceptionnel, c'est ça. T'sais, moi, je pense à Jim Kenzie du côté du Star qui a écrit pendant très longtemps, mais le record n'est pas battu. Alors, moi, je voulais avoir, évidemment, je voulais discuter avec toi, Jacques. D'abord, comment t'as pris cette nouvelle-là? On comprend le contexte, puis bon, c'est pas évident. Ouais. Mais d'abord, c'est ça. Comment t'as pris cette nouvelle-là, toi?
Moi, écoute, tu sais, 40 ans, là, je me disais un bon matin, il y a quelqu'un qui va dire, bon, c'est passé, là, tu sais. Moi, tant et aussi longtemps qu'on veut m'utiliser, que je suis physiquement ou mentalement, etc., en forme pour continuer le travail, ça me dérange. J'étais prêt. Mais je sais que toute chose a une fin. Et la seule chose que je savais pas, c'est quand ça arriverait. Et quand au printemps, on m'a dit, tu seras plus publié au niveau du journal, au niveau du papier, maintenant tu vas être sur le web, ben, j'avais pas vraiment pensé que ça irait là un jour. Pour moi, c'était une extension. Moi, je pensais que ça aurait fini au printemps parce que, qu'on le veuille ou pas, au niveau des journaux, au niveau de tout ce qui tourne autour de l'automobile actuellement, c'est pas facile parce que les publicités rentrent pas. Et s'il n'y a pas de publicité, mais il n'y a pas de livres, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de radio, ça
s'arrête. Non, c'est ça. Exactement. Donc, ce que tu me dis, c'est que lorsque la COVID est arrivée au mois de mars, dès lors, on t'a mentionné que tu serais plus dans le journal papier, que c'était temporaire, mais que tu serais quand même publié sur le web. Et là, c'est tout récemment que tu as appris que c'était terminé de façon globale, là, dans le fond.
Oui, là environ 2 semaines et demie, 3 semaines.
OK.
C'est que j'ai appris. Et pour moi, la personne qui m'a appelé, ben moi, comme je lui disais, c'est toi qui as la job de décider, de me dire que c'est fini pour le journal. Mais finalement, on m'a proposé autre chose qui m'intéresse, qui me plaît.
Bon.
Puis j'ai dit oui. Je n'étais pas obligé de dire oui. Si je dis oui, je suis un type responsable, je vais remplir le mandat que j'ai accepté. Et si je voulais pas, j'avais juste à dire non. T'sais.
Fait que là, tu vas continuer d'être publié sur le site du Guide de l'auto, puis tu seras aussi dans le Guide de l'auto 2022.
Exactement, le livre, là.
Oui, absolument. Absolument. Bon. C'est une belle... Écoute, moi, je trouve que c'est une continuité qui se fait, mais différente. Le web, je savais pas ce que ça donnait au niveau couverture, mais je réalise qu'il y a une grosse poussée actuellement vers le web. Et ça m'a amené à vérifier, à regarder davantage.
Tu disais, Jacques, que toute bonne chose a une fin, mais toute bonne chose a un début. Comment ça a commencé, cette histoire-là, avec le Journal de Montréal et le Journal de Québec?
Ben, c'est, le Journal de Québec est venu un peu plus tard. Le Journal de Montréal est arrivé justement en 1979. La première fois qu'on m'a demandé de me rendre au journal, c'était en mai 1979. Et je connaissais Pierre Péladeau en dehors du Journal de Montréal, que j'ai pas besoin de vous dire de comment, mais je connaissais. Et comme je faisais, comme j'ai fait de la course pendant plusieurs années, et je pense que je performais assez bien parce que j'ai été invité par des manufacturiers à courir pour eux autres aux États-Unis, j'ai couru en Europe aussi pour faire Le Mans, et champion américain, champion canadien, et bien performé à Le Mans. Si on n'avait pas eu 6 crevaisons dans la première heure, on aurait gagné. Quand tu pars premier en GP, et qu'après une heure, t'es 52e, c'est du travail à la rapide, tu sais. Alors, tout ça a fait que Pierre Péladeau m'avait dit, on parle souvent de toi dans le journal, et on cherche à partir d'une chronique automobile, et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de gens qui faisaient de l'automobile.
Mais il y avait Jacques Duval.
Il y avait Daniel Hérault, et...
Déjà en 79, Daniel Hérault faisait ça?
Il me semble que Daniel était... peut-être pas, vous avez peut-être raison. C'est avec les années que je l'ai rencontré.
Ouais, Daniel, moi, je dirais que c'est 84 autour d'eux. Ouais.
À peu près en même temps que Marc Lachapelle.
Ah, d'accord. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, les gars. Ouais. En tout cas, mais ça fait trop longtemps, je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé parce qu'il a fouillé beaucoup de loutes.
Cette erreur est pardonnée, monsieur Bienvenue.
Ah, merci. Alors, c'est le même que c'est proposé. C'est qu'on va, j'ai été sur Port-Royal, si ma mémoire est bonne, où ce qui était les anciens bureaux du journal, avec le responsable du journal à ce moment-là, à l'époque, Pierre Péladeau m'a présenté à ce type-là. Après ça, on a fait le tour de la salle de rédaction. Puis il me présentait à tout le monde en disant, Charles, bienvenue, ça va être notre prochain chroniqueur automobile. Okay. Moi, j'avais rien accepté là encore. Là, je faisais juste écouter et regarder. Et tout le monde, beaucoup de gens, journalistes dans la salle, me posaient des questions sur l'automobile. Puis moi, j'avais dit, écoute, je sais pas écrire, je sais rien là-dedans. Là. Moi, je suis un mécanicien. J'étais un gars qui a des commerces automobiles et qui fait de la course automobile. Je suis capable de voir qu'est-ce que les gens ont besoin d'automobile. Je suis capable de réparer d'automobile. Je peux faire à peu près tout avec l'automobile. Mais de là, aller publier ça dans le Journal de Montréal, il y avait une étape.
Ouais, ouais.
Puis Pierre m'a dit, il n'y a pas de problème, on va te montrer. Puis j'ai des rédacteurs qui vont s'occuper de toi et on va te monter. Mais moi, en bon Québécois, j'acceptais pas le travail. Et ça a été au début septembre qu'il m'a dit, là, il dit on part. Il dit, t'embarques ou t'embarques pas. Et Pierre Péladeau était comme ça, tu sais. Et ça niaisait pas.
Avec longtemps. Un ton un peu convaincant, j'imagine.
il était convaincant. Il était très convaincant. Alors, j'ai accepté d'essayer. Et je me souviens qu'il a dit on va partir ça pour la première semaine d'octobre 1979. Puis moi, tout ce que je connaissais ou que je lisais, que je voyais dans Car and Driver, le Road and Track ou les autres choses, et voir aussi ce que Jacques Duval faisait à l'époque, j'ai voulu, me suis servi de ce que Duval faisait, si on veut, ça a été mon mentor d'une certaine façon. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'être plus catholique que le pape. Je me souviens que la première voiture que j'avais essayée, c'était une Cutlass Supreme 1979. J'avais fait faire un galon à l'époque en métal, avec un petit boyau, un petit tuyau après, pour pouvoir visser après le carburateur, pour dire, moi je me disais, quand je vais remplir le galon d'essence, et quand ça va arrêter, je vais dire, ça fait 1000 au galon. À l'époque, c'était 1000.
Oui, oui, oui. OK.
Ah, c'était du travail, crée-moi, que quand tu es plus catholique que le pape, je me suis rendu compte. Ça n'a pas été bien, bien long. J'ai réalisé que c'était pas de même, que ça se faisait vraiment. mais je l'ai fait pareil. Puis j'ai essayé d'être honnête. J'ai toujours essayé d'être honnête dans le travail que je faisais. Puis, à ma grande surprise, on a présenté ça à Pierre Péladeau. Et Pierre a regardé ça, il me dit, c'est correct. Puis, il dit, si tu veux garder ta job, viens au journal à tous les lundis matin. Puis, il dit, tu vas te promener dans la salle de rédaction, les gens, les journalistes vont vouloir avoir l'information, on va rouvrir sur le courrier, et tu vas avoir des gens qui vont t'écrire. Qu'on le veuille ou pas, le journal, c'est quand... Aujourd'hui, je me souviens pas du nombre de parutions.
Ouais, le tirage à cette époque-là était exceptionnel. Là, aujourd'hui, les journaux papier, c'est beaucoup plus dilué, mais ouais.
Ouais, mais c'était au-delà de 300 000. Fait que, tu sais, 300 000, quand même, qu'il y en avait juste quelques-uns qui t'écrivent, tu reçois 300 lettres, c'est pas long, hein.
Ouais.
Fait que, puis Pierre Bellado me surveillait ça. Puis je me souviens qu'une fois, j'avais parlé d'un Oldsmobile 98. Moi, j'aimais pas vraiment un Oldsmobile 98. Moi, je suis pas un gars de grosses voitures. J'aime beaucoup les voitures plutôt compactes qui sont facilement maniables, qui facilement garables, qui vont bien dans les stationnements, etc.
Puis, c'est vrai pour les campers aussi, hein, parce que tu roules en safari condo.
Oui. Mais auparavant, j'avais des gros. J'ai eu des gros campeurs à l'époque où je coursais, où ça prenait... il fallait faire à manger pour les équipiers, qu'il fallait se changer, douffer, etc. Quand j'ai cessé de courir, c'est là que j'ai été vers les safaris condo, vers les classes.
Ah, ouais, OK. Ouais.
En 40... oui, vas-y, Jacques.
Ouais, ça. Alors, pour tout dire que Pierre Bellado avait vu l'article, parce qu'il lisait tout, il m'épatait tout le temps. Il lisait tout, puis il m'avait dit, Jacques, il dit, oublie pas ce que t'as dit à matin là, sur l'Automobile 98, là. Il dit, trouve d'autres mots pour le dire, parce qu'il dit, il y a un lecteur à quelque part, ici au Québec, qui en a un, lui, un Oldsmobile 98, puis à matin, là, il l'a stationné au rôle-trottoir pour le montrer, parce que lui, il l'aime, puis il est fier, son 98. j'ai utilisé, je me suis servi de ce qu'il me disait, et de toute façon, il était le patron. Mais ça a resté quelqu'un qui me suivait et que je croisais assez souvent et qui, s'il aimait ça, il te le disait, et s'il aimait pas ça, il te le disait aussi. Puis je le voyais aller dans la salle de rédaction quand il accrochait quelqu'un, puis il disait, t'aurais pu te forcer un peu. Fait que ça a été facile. Moi, j'ai aimé beaucoup le travail que j'ai fait.
Là, évidemment, le Journal de Montréal, au fil des années, ça a évolué. Ça, je dirais pas que ça a changé de main, mais il y a eu toutes sortes de contextes. Ça a déménagé de locaux, les gestionnaires ont changé. Il y a eu une grève à un moment donné. Toi, tu es passé à travers toutes ces tempêtes-là. Comment tu as réussi à faire ça? Ça, c'est quand même exceptionnel. Là. Il y a pas beaucoup de journalistes qui peuvent se vanter de ça. C'est comme si tu avais trouvé, tu avais joué au serpent et tu étais passé entre les mailles du filet tout le temps à chaque fois. C'est pas évident, là, ça?
Un peu comme quelqu'un qui joue avec des machines à boules, réussissant à passer un peu partout. Ben, écoute, je vais te dire quelque chose.
Une référence très moderne ici.
C'est pas un métier payant. Alors, si tu veux, quelqu'un qui dit, ben, je m'en vais là-dedans, il y en a quelques-uns qui peuvent vivre avec ça, là. Et moi, quand j'étais là-dedans au début, il y avait Duval qui semblait faire de l'argent avec ça. Après ça, il y a David Duquette qui a pu vivre avec ça. Mais moi, je peux te dire que c'était pas des gros salaires. Là. Tu sais, ça coûtait pas cher d'avoir ça au journal. Et ça pouvait justement noircir une couple de parts de journaux. Mais moi, j'ai passé au travail parce que, ben, comme tu dis, j'étais un type qui brasse rien, qui fait son travail, m'obstine pas avec personne. Il y a des années qui sont arrivées, puis ils ont dit, là, on coupe ton salaire, mais quand t'as 100 piastres, là, pour faire un article, tu sais, tu peux pas couper ben, parce que autrement, tu dis, ben, il faut faire la job pour rien, tu sais.
Ouais.
Mais moi, premièrement, j'ai eu des commerces, qui ont bien fonctionné, et quand je suis arrivé là, ben, je pouvais quand même fonctionner sans avoir
Autrement dit, t'attendais pas après ça pour vivre, là, on comprend.
Absolument.
Ça.
C'était un petit bonus.
Ouais, les gens savent pas d'ailleurs que tu as été parmi tes commerces, tu t'es spécialisé dans la vente de véhicules exotiques, ce qui, dans les années 70, début 80, était pas mal plus exceptionnel comme principe que ce que c'est aujourd'hui.
Oui, ben moi j'ai été Lamborghini Countach, Miura, Gimli, Corvette, Porsche, à l'époque surtout Porsche, je n'ai vendu beaucoup. Et j'ai eu énormément de voitures sport, et c'était un commerce, et il y a eu, je me suis fait un commerce aussi, si on veut, Antoine et Germain, c'est que j'avais un côté de voiture Nova 396, 375, okay. SS 427, Cobra, Mustang Boss 302, 429. J'ai eu beaucoup de voitures semblables à ça, que et Barracuda, et 340 DART, et du 426 et demi. Alors, à l'époque, dans les années 70-80, c'était populaire. Et moi, j'avais ça. Et j'avais ça, et j'ai développé un marché autour de ça, sans penser que j'en développerais un, tu sais. Et,
juste parce que tu t'amusais, puis tu t'es rendu compte que c'était lucratif, là.
Ouais, ça a été vraiment agréable. Ça a été okay. vraiment agréable pour plusieurs années. Alors,
puis qu'est-ce qui t'a amené, à laisser tomber ça tranquillement?
Ben, c'était du travail, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient travailler. J'avais quelqu'un qui travaillait avec moi pour m'aider, mais c'était beaucoup de travail à préparer ça, puis à faire l'achat, puis à surveiller tout ça. Et un matin, je voulais faire autre chose. J'avais des offres pour faire autre chose. J'avais décidé que j'arrêterais, que je vendrais des commerces et que je m'en irais, parce que à l'époque, UAP n'a pas m'avait offert un travail de représentant pour eux autres. Puis je pensais faire ça. Et quelqu'un, j'en ai parlé à quelqu'un, puis il m'a dit, Jacques, si tu vends toutes tes choses, essaie d'être un an sans prendre un autre travail. Et à partir de là, tu pourras dire, ben, si tu embarques dans un autre travail, tu vas pouvoir embarquer à temps plein, ouais. Et tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Et j'ai tout vendu les commerces et j'ai décidé que j'arrêtais un petit peu. Mais au travers de ça, il est arrivé Dicom qui est arrivé avec des voitures de course.
Bien sûr.
Qui vont faire à courir pour eux autres, à développer leurs voitures. Et d'autres pilotes, d'autres gars qui m'ont demandé de développer leurs voitures. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait, puis je l'ai toujours fait pour rien. Moi, j'ai travaillé pour rien dans ma vie. Vous n'avez aucune idée, vous autres.
en 40 ans et plus de métier de chroniqueur automobile, bon, aujourd'hui, on peut peut-être être un peu blasé, certains, par le paysage automobile qui peut paraître un peu sans saveur, même s'il il reste des véhicules d'exception. Est-ce que tu as des essais qui ont été particulièrement marquants là, dans les décennies de travail?
C'est le fun. C'est le fun d'entendre ça. Oui, oui, oui. Moi, ce que j'ai aimé, je pense que j'ai touché quasiment, je sais pas si je peux appeler ça l'âge d'or de l'automobile, mais moi, dans les années 70-80, les Japonais arrivaient sur le marché nord-américain. Ils voulaient être connus. Moi, j'ai été 26 fois au Japon. Et dans les 26 fois, à l'époque, on y allait pour 10 jours. Alors, j'ai quand même passé pas mal de temps au Japon.
Ouais.
Et ça m'a permis de connaître un peu la culture et de voir les Japonais, comment ce qu'ils étaient soucieux de nous présenter des beaux véhicules bien assemblés avec des beaux matériaux, etc. Aujourd'hui, on a encore ça, mais les Japonais sont installés ici en Amérique du Nord et il y a moins de contenu dans les véhicules d'aujourd'hui qu'il y en avait. Je vais prendre juste l'exemple des produits Toyota qui sont fabriqués à Cambridge, Ontario, hein.
Ben, ouais.
t'achètes un RAV4 qui est construit là, ou un RX 350 qui est assemblé ici au Canada, et si t'en prends un qui vient du Japon, tu vois que c'est pas les mêmes matériaux. Tu vois que les tapis sont pas de la même épaisseur en dessous, etc. Un tas de choses comme ça. Alors, j'ai appris et j'ai vu comment est-ce que les Japonais chez eux pensaient. Et des voitures intéressantes que j'ai aimé à conduire. Ben moi j'étais à Hawaï quand Mazda a présenté la Miata. Et ça a été une belle présentation et c'était quelque chose de drôlement intéressant qui arrivait sur le marché, ça. Et j'ai eu l'occasion, même je m'en suis acheté une après la présentation.
Là tu parles de la première Miata, donc en 89-90 là.
Absolument.
Un véhicule
absolument.
Un peu plus maniable que le Oldsmobile 98 dont tu parlais tantôt.
Un peu moins bateau. Un peu moins bateau. Et par la suite, ben il y a eu la NSX, la même chose, la NSX. Et pareil, c'est une voiture que, suite à la présentation, je m'en suis commandé une et j'en ai eu une en même temps. J'avais commandé en même temps que Patrick Roy, c'est curieux à dire.
Ouais.
Le joueur de hockey, Patrick avait une noire, moi j'avais une rouge. Et j'ai j'étais un gars comme ça, moi, tu sais, intéressé sur un véhicule, ben si je pense que ça peut être intéressant pour moi, ben je vais me l'acheter, puis je vais pouvoir m'amuser avec. Alors ça, c'est deux véhicules, entre autres, qui ont été marquants. Maintenant, des choses marquantes dans la vie, ben j'ai travaillé pour le développement de Pirelli pour les pneus. J'ai travaillé plusieurs années pour développer des pneus, que ce soit des pneus en neige ou des pneus d'été. Et une année, Pirelli fournissait les pneus pour la première, si ma mémoire est bonne, c'est la première Lamborghini Diablo. Et j'avais été invité, on était 6 ou 7 journalistes européens, il y avait moi du Canada, il y en avait un des États-Unis, qui avait été invité à aller faire l'essai à c'est Monza. On allait faire l'essai de la Lamborghini, la seule qu'il y avait sur le marché.
Ouais.
Puis, me souviens qu'on est arrivé là-bas le matin, et on nous a donné les instructions avec la voiture, on nous a averti de faire attention, etc., parce qu'il y avait une voiture. Et puis, on était déjà tous sur place. Fait que le premier journaliste qui est monté à bord, que je connais pas, on a dit, c'est un tour lancé. Le deuxième tour, vous passez le troisième au deuxième tour, à la fin du deuxième tour, vous avez le drapeau et vous rentrez. Puis le type, il est pas rentré au deuxième tour, il a continué. Puis là, on a entendu un bang épouvantable et on n'a jamais monté à bord de la voiture. Puis on n'a jamais revu le journaliste à aucun autre voyage non plus.
Oh, quand même, hein? Quand même.
Ah oui, ça, c'était des essais frappants, ça. Ouais,
ça me rappelle une histoire similaire. Ça me rappelle une histoire similaire qui est arrivée avec un événement SRT il y a une quinzaine d'années. Un journaliste de Hot Rod Magazine qui a plié en deux une Viper devant nos yeux. On lui a montré la sortie
oui,
assez rapidement.
Les gens de Dodge devaient être bien, bien, bien contents de ça. Hein?
C'est intéressant de voir que les souvenirs que tu as des voitures les plus marquantes pour toi, ce sont toutes des voitures du début des années 90, hein? NSX, oui. Miata, donc toute cette génération de voitures-là, 300ZX, Supra, RX-7, moi, c'est des voitures mythiques pour moi pour d'autres raisons. C'est les voitures que je veux m'acheter aujourd'hui puis qui prennent une valeur épouvantable. Ce sont les nouvelles voitures de collection. Mais toi, c'est des voitures qui t'ont vraiment marqué.
Ben, j'étais assez souvent là lorsqu'ils les ont présentées. Ça, c'était le côté excitant de la chose. Et tout à l'heure, quand je disais que c'était pas le salaire qui faisait que je voulais continuer à faire ce travail-là, c'était beaucoup plus le côté que personne d'autre pouvait faire. Tu sais, dire aller conduire ces voitures-là, être invité à aller voir la construction, être invité à... Moi, je me souviens, exemple, entre autres, Honda Civic, tu sais, ils sortaient, on était au Japon, hein, il me semble que c'est Totsugi, j'essaie de me souvenir du nom de l'usine où ce qu'elle est, mais ils sortaient une voiture à tous les 22 secondes au bout de la chaîne d'assemblage.
Ouais.
Et quand on est arrivé à l'usine, on nous a tout fait, on nous faisait dévêtir, si on veut, là, et on enlevait les caméras et tout, et on nous faisait mettre une grande habit blanche, on appelle ça une chienne blanche,
du ouais. dos,
puis on passait dans un genre de soufflerie pour enlever toute la poussière, et là, on entrait dans l'usine. Et quand on est arrivé dans l'usine, moi, ce qui me frappait, c'est que tous les petits Japonais qui étaient là chez Honda travaillaient avec des gants, étaient habillés en blanc,
ouais.
et travaillaient avec des gants blancs.
Et c'est encore comme ça aujourd'hui à l'usine d'Alliston en Ontario. Tous les employés sont habillés d'une chienne de travail blanche qui a été faite pour eux. Ils ont le casque, les souliers, fournis par l'entreprise au complet, lunettes de sécurité. C'est très uniforme comme façon de faire. C'était pas nécessairement comme ça à Boisbriand chez GM.
Ah non!
Non. Mais ce que je veux vous dire à ce sujet-là, c'est quand on est arrivé dans l'usine, il y avait quelqu'un... Il y avait quelqu'un qui s'occupait des feuilles, des plantes qui tombaient à terre. Il y avait des plantes à la grandeur de l'usine. Je me souviens qu'on avait posé la question, mais qu'est-ce que ce type-là fait dans l'usine qui vérifie les feuilles des plantes qui tombent par terre? Puis les Japonais nous avaient dit, si les feuilles des plantes sont en santé dans l'usine, la santé de nos travailleurs va être aussi de bonne qualité. Alors, eux autres, pour justement trouver la qualité de l'air dans l'usine, ils servaient des plantes et c'est ça que ça donnait. Ça donnait des gens qui étaient heureux de travailler là.
Fait que tu as été marqué par la culture japonaise, par les véhicules qu'ils faisaient, par la qualité qu'ils amenaient sur le marché, ce qu'on n'avait pas vu ailleurs, ni de la part des Allemands, ni de la part des Américains à ce moment-là, et encore moins de la part des Anglais.
Oui, surtout.
Ouais.
Mais Mais c'est ça. Mais les Japonais m'ont marqué par ça beaucoup. Et je peux dire aussi que les Japonais, ils nous écoutaient. Ils attendaient pas. Moi, je me souviens que Toyota avait un problème de démarrage une période de temps et on s'était aperçu que c'était l'alternateur qui était pas de qualité assez bonne. Ça a pris deux mois et demi, et tous les nouvelles voitures qui arrivaient ici, qui venaient du Japon, avaient un nouvel alternateur qui durait, je peux te dire.
OK. Et l'arrivée des marques coréennes, bon, Hyundai, Kia, t'as entrevu ça comment, toi, parce que t'as pu assister à ça?
Oui, j'ai eu la chance d'aller là, dans ces usines-là, et de voir... Bien, premièrement, j'ai pu assister à l'usine ici à Bromont, au montage de l'usine à Bromont.
Ben oui.
Il y a un tas de gens qui sont pas au courant de ça, mais les Coréens, ils ont tellement voulu bien faire, c'est incroyable, tu sais. Parce que quand ils ont construit l'usine à Bromont, c'est que tous les Coréens qui venaient travailler à Bromont devaient parler français. Il n'y a pas grand monde qui savait. Ouais. Ils devaient parler français. Et tous les Québécois qui devaient travailler à Bromont devaient aller passer 3 semaines en Corée pour connaître la culture coréenne. Alors, être capable de passer des fins de semaine là-bas, d'aller grimper sur les montagnes, d'aller manger avec eux autres, de pouvoir s'imprégner de la culture coréenne. Mais les Coréens voulaient pas de syndicats dans leur usine. Alors, quand il y en a un qui est tombé malheureux de ça, ben ils ont tout simplement décidé de fermer l'usine.
C'est vraiment le syndicat qui a fait en sorte qu'ils ont fermé l'usine aussi rapidement que ça, hein?
Ah, eux autres, ils étaient prêts. Et si quelqu'un d'autre gagne plus cher que vous autres, on va s'ajuster avec vous autres. Mais c'est pas le même que ça s'est passé.
Mais puis je comprends, parce que moi ça me flabbergasse de voir des situations comme ça. Au Québec, on est donc bon là-dedans, aller mettre un syndicat dans les pattes d'une entreprise, alors qu'on a la preuve, par exemple, chez Honda, chez Toyota, du côté de l'Ontario, où on a 5, 6, 7 000 employés, puis il n'y a pas de syndicat là-bas, et ça fonctionne à merveille. Et
les conditions sont pas moins bonnes, là?
Ben non, en fait, t'es super bien traité, mais c'est une culture propre à des entreprises. Et c'est une façon de faire qui est totalement différente. Mais bref, ça a coûté la vie de cette usine-là. On bâtissait les Sonata à partir de 1989, si je me souviens bien.
89.
Mais Hyundai est arrivé ici, au Canada, en fin d'année 83, boudant le marché... 84. Oui, ouais, c'est ça, pour les modèles 84. Puis on boudait le marché américain. À ce moment-là, on n'était pas aux États-Unis. Ouais. Puis ça a été incroyable. Là. En 85, Hyundai, en fin d'année 85, Hyundai possédait 10 % du marché total canadien après même pas 2 ans de commercialisation. Là. C'était incroyable.
C'est ce qu'on appelle très bien percer le marché, vraiment.
Sauf que quelques années après, la roue, il avait percé la carrosserie des autos. Ça, c'était une autre affaire.
Mais ils se sont revirés rapidement parce qu'ils ont découvert que l'acier que ça prenait pour le Québec était différent que l'acier que ça prenait pour la Corée.
Ben oui.
Puis, une chose que c'est vrai, le gouvernement avait mis plusieurs millions là-dedans dans la fabrication de cette usine-là, mais quand Hyundai a décidé de fermer, ils ont remboursé le gouvernement au complet. Je pense pas que VM ait fait ça au complet.
Non, pas nécessairement. Même les taxes à la ville de Boisbriand, il y a encore anguille sous roche à ce niveau-là. Enfin, bref. Jacques, tu me parlais des voitures qui te passionnaient au cours de ta carrière. Aujourd'hui, si tu avais à t'acheter une voiture, ça serait quoi, en terminant?
Pour moi?
Oui.
Je suis obligé de te dire que, il y a quelques années, j'aurais été vers du diesel. J'étais un gars qui aime beaucoup le diesel. Et quand je lis tout ce qui se passe sur le diesel, même en Europe, on finit par, les dernières études finissent par dire que finalement le diesel pollue moins que les voitures à essence et ça consomme beaucoup moins aussi et c'est beaucoup plus performant pour remorquage ou n'importe quoi. Je suis un type qui a aimé beaucoup le diesel. Maintenant, je me retournerais peut-être vers l'électricité, mais je trouve donc ça malheureux actuellement. De voir que les gouvernements, moi et plusieurs d'autres, on est obligés de payer des subventions en coût de 8 000 et 5 000 $ pour que monsieur et madame tout le monde s'achète une voiture électrique. Moi, quand je veux m'acheter un véhicule, si je demande au gouvernement, il va pas me subventionner. T'sais. Alors, je trouve ça malheureux. Et je trouve ça malheureux. Ce qui se dit pas souvent non plus, c'est qu'on dit, ouais, tu vas pouvoir t'acheter une voiture électrique, mais on ne dit pas qu'il va falloir que tu t'achètes une borne pour mettre chez vous. Moi, ici, je vis en condo et j'ai fait faire une évaluation pour m'installer une borne dans le stationnement que j'ai ici. Et ça me coûterait 6 000 $ pour avoir une borne installée. Alors, si je considère tout ce que... D'accord que ça peut être moins polluant sur le moment, mais si on considère les terres rares que ça prend pour construire les batteries et toute la pollution que ça va prendre pour ça, pour la construire et tout ce que ça va prendre de pollution pour se défaire des batteries, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence avec ce que j'avais de voiture. Alors, actuellement, m'acheter une voiture à moi, moi, je trouve que j'aurais acheté, s'ils avaient continué, fort probablement, la Chevrolet Volt, parce que j'aimais le fait que j'étais pas obligé de me casser la tête pour rouler avec cette voiture-là. Le moteur servait justement à recharger la batterie et ça aurait fait mon affaire. Moi, ce serait ça. Maintenant, ce que je pourrais vous parler au niveau de ce qui se passe au niveau des journalistes automobiles aujourd'hui, c'est que je trouve que la majorité des gens qui font le travail que j'ai fait pendant si longtemps, je trouve que les gens mettent beaucoup d'accent sur les voitures performantes, alors que monsieur et madame tout le monde, s'ils ont besoin, c'est souvent une petite voiture, surtout dans les villes, et d'une voiture économique. Alors, plutôt de leur parler de voitures performantes, ben leur parler de voitures performantes économiques. Et ça, ce serait beaucoup plus intéressant et plus agréable.
Ce qui est un peu malheureusement contradictoire avec le fait que les constructeurs automobiles fabriquent de moins en moins de voitures économiques. J'écrivais là-dessus cette semaine, la moyenne de prix d'un véhicule vendu au Canada cette année, c'est 40 000 $.
Ouais.
Donc puis là, les constructeurs automobiles, se plaignent, les concessionnaires se plaignent que les ventes sont en baisse, mais c'est parce qu'il y a quand même une catégorie de gens qui se dirigent vers l'usager, faute de pouvoir acheter une voiture neuve.
Et il y a des limites à étirer le financement aussi pour amortir ce prix-là.
Oui, c'est ça.
T'as raison, Germain. Puis c'est ça. C'est que. Mais une chance que les voitures sont meilleures qu'elles n'ont jamais été dans l'ensemble. Et que les manufacturiers, pas les manufacturiers, mais je pense que ce soit BMW, Audi ou Mercedes ou d'autres manufacturiers ils se sont aperçus que le marché usagé était intéressant. Alors ils ont des garanties prolongées qui permettent justement de pouvoir supporter la voiture un autre 50 ou 60 000 kilomètres. Alors,
oui, parce que je trouve ça drôle. Tantôt, tu nous parlais de la Lamborghini Diablo. C'est une voiture qui fait rêver, mais quand t'en conduis une, tu réalises que c'est un véritable tracteur avec un V12. C'est pas ce qu'il y a de plus raffiné. C'est épouvantable à conduire, ça.
Moi, j'avais acheté une journée une Ferrari Daytona, le 12 cylindres.
Ouais.
Et ça, le crémoin que c'était... C'était un camion 5 tonnes avec
défais pas mes rêves, là.
C'est ça. Laisse-moi encore pouvoir en rêver un peu. Jacques, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Merci vraiment d'avoir pris le temps de nous parler. Puis en attendant, on peut te voir où, on peut te lire où. On sait qu'on va te lire sur le site.
Sur le web du Guide de l'Auto.
Ouais.
Le web du Guide de l'Auto, c'est là que je suis. Je crois que c'est le mardi maintenant et ça va être de même jusqu'au mois de décembre qui s'en vient.
Parfait. Puis là, tu vas être dans le Guide de l'Auto 2022. On te suit aussi à l'émission Virage?
Oui, Virage ici à Québec avec Daniel Boudreau. Ça fait déjà 24 ans que je suis avec Daniel. Ça nous permet de s'amuser encore dans l'automobile et de se garder proche. Et même si on m'avait enlevé tout ce que c'est que... la place pour parler d'automobile, j'aurais continué à me renseigner pareil parce que j'aime l'automobile et ma conjointe ne veut pas venir au centre d'achat avec moi ou dans les grandes surfaces parce que ça prend trop beaucoup d'heures pour... tout le monde me pose des questions. Les gens disent, ouais, mais vous deviez être tanné, monsieur, bienvenue, que tout le monde vous arrête et vous pose des questions. Moi, je dis tout, mon travail n'a pas sa raison d'être si vous ne me posez pas de questions.
Et ça, c'est un rêve, hein, que ta femme ne veuille pas aller magasiner. Ça, c'est extraordinaire,
c'est,
ça.
C'est les rôles inversés. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir partagé tous ces souvenirs.
J'aurais aimé vous dire quelque chose sur la Ferrari, mais je pense qu'on n'a plus de temps.
On te rappellera.
Okay, on fera un spécial voiture exotique par Jacques Bienvenue. Ça va être bien le fun, ça.
On va s'amuser, ça puis des petits motorisés.
Oui, okay. Ça marche. Merci, Jacques. Salut. OK,
merci.
Bye-bye.
Merci d'avoir pensé à moi. Bye-bye.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Cette semaine, Antoine, on apprenait que la firme ALG, qui s'est associée avec J.D. Power, décernait le prix de meilleure valeur résiduelle à trois véhicules coréens dans leur catégorie respective, donc les Genesis G80 comme berline pleine grandeur de luxe, Hyundai Kona comme véhicule micro-utilitaire, c'est l'appellation qu'on a choisi,
ouais.
Et la Hyundai Sonata comme berline intermédiaire. Et je pense que tu voulais souligner un petit bémol.
Bon, je pense d'abord qu'il faut expliquer aux gens ce qu'est ALG. C'est une firme ontarienne qui est responsable d'instaurer des valeurs résiduelles sur l'ensemble des véhicules du marché canadien, puisque ces véhicules-là sont loués par une majorité de clients et parce que ça prend une valeur résiduelle pour établir un paiement.
Okay? Voilà.
Alors, je vais vous donner un exemple bien simple. Si vous louez une Honda Civic sur un terme de 4 ans, qu'au bout de 4 ans, on évalue la valeur résiduelle à 50 %, que votre voiture est vendue, je dis un chiffre là, comme ça, 20 000 $ bien, ça veut dire qu'au bout de 4 ans et 80 000 km, la voiture vaut 10 000 $ OK? Et ALG est responsable d'établir une valeur résiduelle pour l'ensemble des véhicules qui sont vendus chez nous, valeur qui va fluctuer chaque mois. On va ajuster en fonction du marché les valeurs à chaque mois. Parfois, on ne le fera pas, mais si besoin il y a, on va le faire. Et on fait ça pour l'ensemble des véhicules qui veulent être mis en location par les entreprises. Le problème, c'est que cette entreprise-là est, selon moi, elle est basée à Toronto,
ouais.
Et elle ne tient aucunement compte des marchés qui diffèrent d'un océan à l'autre.
Donc, entre Moncton, Montréal et Calgary, ben, il peut y avoir là, des différences sur le marché d'occasion. Là.
Bien sûr. Alors, moi, je donne toujours l'exemple des gars qui, à Lancan, vont acheter... les gars de Toronto viennent acheter des Volvo à Lancan, ici au Québec, pour les ramener à Toronto. Puis les Québécois vont aller à Lancan, à Toronto, ramasser les Accent, puis les Rio, puis les Yaris.
Pour ce qui en reste,
puis les ramener ici, parce que c'est ici que les valeurs... Les voitures se vendent mieux et plus chères. Donc, c'est une preuve que la valeur résiduelle...
Elle est inégale.
En fait, la valeur de revente n'est pas la même ici qu'ailleurs.
Donc, la valeur résiduelle, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose si elle n'est pas conséquente avec la valeur du marché dans lequel on est.
Ben voilà. Et moi, je me souviens très bien, l'année passée, j'avais écrit un article à ce sujet-là. On avait reçu un communiqué à l'effet que ALG avait établi la meilleure valeur résiduelle pour l'Infiniti Q50 dans le segment des berlines sport de luxe. Devant la série 3, devant l'Audi A4, devant la Mercedes de classe C. Et durant cette même période-là, j'ai un ami personnel qui s'achetait chez un concessionnaire Infiniti de Mascouche, qui n'existe plus aujourd'hui, se procurait une Infiniti Q50 de 9000 km, voiture qui avait 14 ou 15 mois. Il se procurait cette voiture-là pour un peu moins de 30 000 $ alors que la voiture neuve en valait 50. Donc, en 9000 km et 14 ou 15 mois, la voiture avait perdu 40 % de valeur et c'était le prix de détail qu'on lui vendait la voiture. On s'entend?
Ouais.
Donc, cette voiture-là avait subi une dépréciation au prix de détail de 40 % en 15 mois et 9000 km et on avait décerné à cette voiture-là la meilleure valeur résiduelle appliquée. Donc,
la réalité est juste différente du tableau Excel.
Et on sait tous aujourd'hui que si tu vas à Lancan chercher une Hyundai Sonata, ça vaut rien.
Ouais.
Sur le marché d'occasion, il n'y a pas de marché pour ça. Et là, tu viens me dire, toi qui s'appelles ALG, que la Hyundai Sonata et la voiture qui va mieux se revendre, qui va avoir une meilleure valeur de revente dans ce segment-là, mieux qu'une Camry, mieux qu'une Accord. C'est, sur quoi tu te bases?
C'est très difficile à avaler.
La Genesis G80, une marque qui n'a pas d'historique, une voiture qui est invendable sur le marché d'occasion dans ses anciennes générations. Il n'y a personne qui veut ça. Une Chrysler 300, c'est plus facile à vendre qu'une G80. Ouais. Là. Une Genesis...
Personne ne cherche ça.
Personne ne cherche ça. Et toi, en tant qu'entreprise, tu viens établir... Bon, pour le Kona, j'ai un peu moins de misère avec ça. Bien que j'établirais la valeur résiduelle, une valeur résiduel supérieur à un Crosstrek, mais en termes de pourcentage. Mais le Kona, tu sais, c'est un véhicule qui est très populaire sur le marché d'occasion et qui garde une certaine valeur. Mais une Hyundai Sonata, une Genesis G80, je serais bien curieux de parler aux gens qui ont pris ces décisions-là et qu'on m'explique sur quoi tu te bases pour dire que ça va valoir plus cher tantôt qu'une Toyota Avalon, je sais pas.
Qui est une valeur un peu plus sûre.
Oui, puis encore là, dans ce segment-là, il n'y a rien qui se revend facilement aujourd'hui, non. Tu vas me dire. Mais tu sais, je veux dire, on parle de grandes berlines de luxe, donc on considère BMW de série 5, Mercedes de classe E, Audi A6, toutes ces voitures-là. Et la Genesis G80...
se démarque par sa valeur résiduelle.
Où tu vas chercher pareille sottise. Moi, j'y crois pas deux minutes. C'est une grosse campagne marketing.
Ouais.
Et je trouve que ALG devrait retourner au fondement même de ses objectifs.
Parce que finalement, ça ne veut rien dire.
Bien, ça veut rien dire. Puis c'est ce qui a fait en sorte que pendant des années, les voitures Kia n'étaient pas louables chez nous, même si c'est des voitures qui se revendaient bien. Et je vais prendre l'exemple d'une Forte. On avait de la misère à être... Là c'est moins vrai, là. Mais on avait de la misère jusqu'à il y a quelques années à être compétitif en location avec une Kia Forte, parce que même si tu mettais des taux de location alléchants...
Le résiduel était nul.
Le résiduel était tellement bas par rapport à une Civic, à une Corolla et même une Elantra qu'on n'était pas capable d'être compétitif. Et pourquoi on n'était pas capable? Parce que ALG avait décidé que ça valait rien sur le marché d'occasion. Et pourtant, chez nous, ça se revendait très bien. Peut-être que c'était vrai à Calgary, qu'il n'y avait pas de marché pour revendre une Forte. Peut-être que c'était vrai à
Toronto. Mais d'une ville à l'autre, ça peut varier.
Mais voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour peut-être étudier les valeurs résiduelles et émettre des valeurs résiduelles par province ou par région? Je ne sais pas. Il y a certainement une solution, mais actuellement, de la façon dont on fonctionne, ça ne marche pas. Et que J.D. Power émette son nom là-dessus...
C'est un peu gênant.
Moi, j'ai un peu de misère avec ça.
Ben, merci beaucoup, Antoine.
Bonne semaine.
Cube Radio.